entre du bushman et au Kasaï oriental. J'ai refusé totalement cette
histoire. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonne semaine à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Mardi 5 novembre 2013, les forces armées de la RDC, FRDC donc, appuyées par les casques bleus de la brigade d'intervention de la MONUSCO, ont intervenu une victoire totale, donc ont obtenu donc une victoire totale sur les M23 avec la prise de leur dernier bastion, les collines de Changzhou et Runyoni. Et dans la foulée, le mouvement annonce officiellement la fin de sa rébellion. Un an après cette victoire sur les M23, quel bilan faire de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et que faire pour consolider la paix d'une manière durable dans cette partie du pays toujours en proie à l'insécurité? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocafé.net et appelez-nous au 081 890 6315 pour participer en direct à cette émission. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Paul Badianyam est à la technique. Julie Bongonda est à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Mugebo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Mugebo.
Nous avons en ligne Dieudonné qui est à Goma. Dieudonné, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Dieudonné, vous avez suivi l'actualité un an après cette victoire sur les M23. Quel bilan faire de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo pour vous?
Bon, moi je dirais que militairement, en termes de combat, le bilan est positif. Mais politiquement, pour moi, le bilan est indifférent, d'autant plus que les amnistiés anonymes qui sont encore en Ouganda ne veulent pas revenir à la République démocratique du Congo. Leur pays maternel est original. Récemment aussi, on a pris ou capturé 54 jeunes Congolais qui voulaient aussi traverser vers l'Ouganda à travers Bounagana. Quelque part, ce genre de comportement remet en doute, soit en disant victoire totale des FARDC. Outre que ça, depuis la défaite du M23, l'insécurité règne partout. Les comportements violents des agents de Nalu s'accentuent du jour au jour. Et ceci vraiment prouve que aussi longtemps que les autorités, qu'à présent, c'est quelqu'un qui viendront, ne décident pas sur un état d'urgence ou de siège au Nord Kivu, il y aura toujours des hostilités. Donc c'est ça.
Donc vous pensez qu'il faut décréter un état de siège, un état d'urgence dans cette partie du pays pour, au fait, rendre un peu, en tout cas, consolider la paix d'une manière durable, afin de permettre à ce que les autres, ou qui constituent quand même un danger pour la sécurité dans cette partie du pays, ne puissent pas opérer à longueur de journée. Voilà, merci beaucoup. Mais alors, vous avez peut-être un autre élément à ajouter, Dieudonné?
Oui, on peut toutefois ajouter d'autres choses. Puisque nous constatons que lorsqu'il y a cette mélimélo des autorités administratives, des autorités militaires, je ne sais pas, des autorités politiques, on suppose déjà qu'il y a toute une amalgame de pouvoirs qui existent ici au Nord Kivu. Mais une fois qu'on donne seulement le pouvoir de gérer la province du Nord Kivu par un état d'urgence ou un état de siège, on peut quand même extraire quelque chose. C'est donc pour laquelle moi j'exigerais qu'on établisse quand même un état d'urgence ou de siège. C'est ça.
Voilà, merci beaucoup Dieudonné d'avoir appelé. Nous prenons le deuxième auditeur qui est en ligne, Timothée, qui est à Kananga. Timothée, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de suivre Dieudonné qui a brossé un bilan qui, selon lui, est un peu mitigé. Il a parlé sur le plan militaire, le bilan est positif, tandis que il reste encore beaucoup de choses à faire du côté politique. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bon, moi, je dois voter dans ce sens. Moi, je crois que c'est 20-23. Bon, c'est un départ pour l'armée congolaise. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement les F-23 qui ont causé l'insécurité à l'est de la RDC. L'insécurité est causée par plusieurs groupes militaires et des rebelles, mais le F-23 n'était qu'un groupe. On a vaincu, c'est bien. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est que après la victoire sur le F-23, l'insécurité continue toujours à régner de l'autre côté de l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, il faut savoir d'abord quelles sont les causes de sécurité, parce qu'on a vaincu, on est en train de convaincre d'autres groupes secrets et l'insécurité continue toujours. Alors, pour vaincre cette insécurité, il faut d'abord analyser les causes de l'insécurité. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que l'insécurité existe d'abord par rapport aux frontières. Nous connaissons avait mal réparti la frontière entre la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Alors, quand les populations se retrouvent, amis se retrouvent tantôt au Rwanda et tantôt à la République démocratique du Congo et au Burundi, alors ils doivent se réclamer la légitimité soit d'être au Rwanda ou soit d'être à la République démocratique du Congo. Alors, cela crée toujours des députés qui sont qu'ils ne créent pas pacifiquement, il faut qu'ils puissent prendre des armes afin qu'ils soient entendus. De cela, il y a cette insécurité. Maintenant, ce que nous proposons
pour consolider la paix d'une manière durable, qu'est-ce que vous proposez?
Il faut d'abord un processus entre le gouvernement rwandais ainsi que le gouvernement congolais pour avoir un commun accord afin de tracer les limites.
Mais Timothée, il y a déjà l'accord cadre d'Addis Abeba.
Oui, l'accord cadre d'Addis Abeba est là, mais la volonté du côté rwandais n'est pas mal. C'est comme si la République démocratique du Congo était un petit qui s'agenouille devant les Rwandais afin d'exécuter cet accord cadre, alors que les Rwandais n'ont pas cette volonté-là. Et c'est les Rwandais qui veulent toujours créer cette insécurité. Peut-être que les peuples, donc les rebelles qui sont en train de créer cette insécurité, se voient dans l'insécurité de vivre au Rwanda, alors ils veulent revenir à la République démocratique du Congo. Alors, s'il y a un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur les frontières, pour qu'il y ait un commun accord afin de savoir qui a cette partie de terre et qui a l'autre partie de terre, nous croyons que ça ira. Mais avec toujours des accords cadres et autres choses, ce ne sont que des lettres mortes qui ne sont pas appliquées du côté rwandais.
Voilà, merci beaucoup. Alors, comme Dieudonné, vous avez pensé que le bilan est très mitigé, en tout cas sur le plan militaire, c'est pratiquement positif, mais vous, personnellement, remarqué que les groupes armés actifs se créent, en tout cas, c'est comme, on assiste à cette loi de Mendeleïev, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, il y a des groupes qui sont démantelés, il y a d'autres qui sont créés, en tout cas, et on est en train d'assister à un continuum d'insécurité dans cette partie du pays. Alors pour y arriver, maintenant il faut que nous puissions renforcer la diplomatie entre les deux pays voisins pour permettre à ce que les groupes d'actifs qui sont issus au fait de d'autres pays puissent aussi se permettre de quitter quand même, de laisser le pays en paix. Merci beaucoup Dieudonné et Timothée d'avoir appelé. On va prendre Clovis qui est à Mouenéditou. Clovis, bonjour.
Bonjour hier, bonjour à tous les amis de la radio.
Vous êtes abonné du tout, vous avez suivi vos prédécesseurs. Est-ce que vous partagez les avis des uns et des autres?
Ah oui, par rapport à celui qui vient d'intervenir à partir des Kananga, quand je parle sur le plan diplomatique, je ne sais pas si puisque l'accord d'Addis Abeba reste juste là non appliqué. Moi, je trouve que c'est vraiment difficile de prendre encore Rwanda, Burundi, etc. à mettre ensemble ou qu'on passe par une diplomatie sans intérêt, on remarque aucune chose. Mais sinon, l'État congolais doit renforcer le dispositif militaire et chercher tout d'abord à faire un tri au sein de l'armée congolaise, puisque moi je trouve qu'au sein de cette armée, il doit y avoir aussi des commandes militaires. Les gens qui, normalement, collaborent avec ces sommaires des troubles de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Par rapport à ça, hier, je pense que le bilan, comme vous l'avez dit, moi je trouve que sur le plan militaire, c'est par rapport à un seul groupe armé, puisque jusque-là, il y a encore d'autres groupes armés qui naissent du jour au lendemain et qui sèment la terreur et qui tuent les paisibles citoyens. Donc, le bilan est toujours mitigé. Je trouve que sur le plan politique, on a échoué, puisqu'on nous parlait de pourparlers, on nous parlait de dialogue, on nous parlait de 2000 sommatoires. Jusque-là, on ne trouve pas qu'il y a une solution. Mais moi, je pense qu'on doit tout d'abord renforcer le dispositif militaire pour frapper des forces, les ADF Nalou et l'FDLR et d'autres groupes armés qui naissent du jour au lendemain de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Et en même temps, les politiciens de la République doivent avoir aussi cette politique qui a de voir que non, notre pays n'est pas un champ de n'importe où tout le monde qui entre doit faire n'importe quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, les ressortissants de M23 vivent en Ouganda, vivent en Rwanda. Et ils ne sont pas poursuivis. C'est là qu'ils ont été amnistiés, sont quelque part. Mais c'est là qu'ils ne sont pas amnistiés, vivent quelque part en liberté. Ils peuvent encore émettre de la terreur et chercher une politique noire, être joué à la ruse et à la méchanceté. Je pense qu'on doit tout d'abord chercher par quel moyen renforcer le dispositif militaire, aussi de faire même un état d'urgence de l'autre côté de l'Est de la République, puisque je pense que le Rwanda est aussi complice et les autres pays-là. Je ne crois pas, puisque la sort d'Addis Abeba a été déclarée, mais jusque-là, le Rwanda et le Burundi, et aussi l'Ouganda, n'entendent pas réellement compte. Donc, passer par des négociations, par des dialogues, pour vous parler, c'est vraiment passer le temps inutilement. Il faut traquer tout d'abord les menus et renforcer le dispositif militaire qui était maintenant à faire un prix au sein de l'armée qui a, par exemple, les éléments du transit qui font à ce qu'il y ait une collaboration entre les semeurs des troubles et l'armée. Parce que quand il y a un élément étranger au sein de l'armée, tout est fragilisé. Je ne pense pas qu'on doit faire un bon travail.
Merci beaucoup, Clovis, d'avoir appelé de Mené du Tout, 081-890-63-15, pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Avant de retrouver notre invité qui va intervenir depuis Paris, en France, Jean-Jacques Wondo, qui est analyste politique, on va d'abord prendre notre intervention d'un auditeur depuis Vienne, en Autriche. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les amis, parlez à ceux qui vont parler, à toute l'équipe de PA.
Vous avez la parole, Franck. Vous avez suivi tout à l'heure Dieudonné qui a appelé de Goma, Timothée Kananga et Clovis de Moneditou, qui ont brossé à leur manière, en tout cas, le bilan par rapport à la sécurité dans l'est du pays, un an après la victoire sur les M23, la victoire donc des FRDC, appuyée par les casques bleus de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Alors, quel est le bilan que vous allez faire, vous, personnellement, Franck?
Oui, ça va aller par quatre chemins. Nous devons dire que le bilan est mitigé, parce que après une victoire militaire, il y a toujours des dispositions sécuritaires à prendre. Et mon intervention va porter sur deux volets. Au premier, je vais essayer des constats et observations. Et au second, je me pose quelques questions, lesquelles constituent même mon analyse. Monsieur le journaliste, nous avons tous suivi l'histoire des guerres. Dans certains pays du monde, on constate que à la fin de chaque guerre, pour le cas de la RDC avec les rebelles du M23, ou à la fin de chaque période d'incertitude, à la fin de chaque série d'insécurité, il y a des séries de mesures qu'il faut prendre afin de s'assurer qu'on est vraiment en sécurité, afin de s'assurer que la même situation ne peut se reproduire. En guise d'exemple, nous savons que la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, qui s'est en 1945, mais des années après, un mur a été construit. Et même vers l'Asie, entre les deux Corées, des mesures avaient été prises pour se sécuriser de part et d'autre. Même dans nos familles, quand on est chaque fois victime des cas de vol, je crois que nos parents arrivent quand même à prendre des dispositions, soit placer des antivols, soit changer des serrures, afin de s'assurer que les voleurs ne peuvent plus venir. Et je crois qu'on se dit en sécurité dans une maison quand on sait que les voleurs ne peuvent plus. Et pour un État, on se fait en sécurité quand on sait qu'on a essayé de repousser l'ennemi. Et on est déjà en mesure de se dire que l'ennemi n'a plus d'ouverture pour rentrer chez soi. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, nous devons le dire que le M23 s'est replié tactiquement, le M23 s'est retiré, mais le M23 est en train de se reconstituer d'une autre manière et le M23 est en train de changer son modèle, son mode opératoire, quoi. On ne peut pas comprendre, là j'arrive au deuxième point, on ne peut pas comprendre que dans un pays qui est moderne, dans un pays qui a tous les ministères
de l'intérieur, de la défense,
donc, tous les services secrets, les services, monsieur les journalistes, mais tous ces gens-là qui travaillent pour les services secrets, comment peuvent-ils nous expliquer qu'on arrive à tuer des citoyens, pas une seule fois, plus de deux fois, et aucun service n'est en mesure de mettre la main sur ces gens-là. Aucun service n'est en mesure de... Ces gens viennent de tel endroit. C'est une autre question qui me vient par la tête. À l'Est, on nous a dit drone qu'on avait mis, qu'on avait placé là pour...
Mais rapidement, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent aussi. Allez-y, Franck.
Tous ces drones-là, ça sert à... Tout ce ministère, ça répond à quoi on peut tuer des citoyens en dizaines et il n'y a même pas de sanctions jusqu'ici au niveau de tout ce gouvernement. Donc, quelque part, on se rend compte qu'il y a des complicités internes. Mais tant que ça va continuer comme ça, donc il y a des gens qui tirent des ficelles sur le dos des citoyens. Bon.
Voilà. Donc, voilà. Oui, Franck, juste une question de curiosité, parce que vous venez parler tout à l'heure de donner l'exemple de l'après-guerre, d'après-deuxième guerre mondiale, où un mur a été érigé, tout ça. Mais voilà, donc, là, on a l'impression que vous demandez aujourd'hui aux Congolais de créer une barrière, tout autour de leurs frontières, parce que c'est vrai, on le dit souvent, nos frontières sont poreuses, ben voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que là, on est en train d'enfreindre un peu à quelques accords que nous avons pu signer avec des accords, voulais-je dire, des accords sous-régionaux ou régionaux que nous avons signés avec nos voisins?
Monsieur le journaliste, je ne dis pas directement qu'on doit ériger un mur, mais je trouve que l'on fait que les frontières puissent être sécurisées. Même ici en Europe, les frontières sont en train de tomber, mais les frontières sont sécurisées. Parce que quand vous prenez les trains pour certaines frontières, parfois les policiers vous surprennent aussi. Vous présentez vos identités, mais on doit savoir qui est qui. Je crois que tous ces accords sont pour nous tous, mais tous ces accords ne peuvent pas être signés en vue de déstabiliser seulement la partie de la RDC. Parce qu'on demande à ce que la RDC ouvre les frontières, mais la RDC devrait aussi être à mesure, la RDC en tant qu'État, être à mesure de sécuriser ses frontières. Mais tant que toutes ces frontières vers l'Est ne sont pas sécurisées, à quoi servent tous ces accords-là? C'est seulement pour compter les milliers de morts.
Voilà, Franck, alors merci beaucoup. Hein, ben, comme les autres, vous avez dit que le bilan il est tout à fait mitigé, en tout cas, même s'il y a eu cette victoire d'une manière du côté militaire, mais il reste encore beaucoup à faire hein, sur le plan politique et diplomatique. Donc il faudrait quand même que les autorités puissent être un peu avoir un regard sur cette question afin de sécuriser la population dans cette partie du pays. 081 890 7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Jean-Jacques Mondo, vous êtes analyste politique, vous êtes notre invité. Bonjour.
Bonjour, monsieur Lugimbo.
Voilà, monsieur Jean-Jacques, vous êtes analyste et vous intervenez dans cette émission depuis la France. Vous avez suivi l'actualité comme...
En Belgique,
comme tous les autres. C'est vrai que un an après, la victoire sur les M23, nous essayons quand même de faire un bilan de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux uns et aux autres, surtout aux auditeurs qui venaient d'intervenir avant vous?
Oui, j'ai suivi un peu les interventions qui m'ont précédé. Je peux dire que faire le bilan sur la base de la seule victoire contre le M23 ne permet pas d'analyser la problématique dans toute sa globalité. Je m'explique, quand il y a eu la chute de Goma en 2012, et l'effet que cela a engendré sur le plan national ou au niveau de la communauté internationale. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, avec les 6 engagements auxquels le gouvernement congolais a souscrit, et d'autres signataires aussi au niveau des pays frontaliers qui étaient concernés directement ou indirectement à la crise congolaise. Et dans la foulée aussi, le 28 mars, il y a eu le vote au Conseil de sécurité la résolution 2098 qui a institué ou créé aussi la brigade d'intervention. Et ce qu'on oublie dans cette résolution, le but de cette brigade n'était pas seulement d'attaquer le 23, mais d'attaquer aussi tous les mouvements, tous les groupes armés qui sévissent à l'est du Congo. Il s'agissait notamment du FDLR, du Front Maïmaï qui était dans la région. Oui. Et on s'est rendu compte que le seul travail qui a été fait, c'était se concentrer sur le M23. On a oublié qu'il existe encore d'autres groupes qui étaient aussi nocifs que le M23. Certes, si on considère l'aspect purement militaire, je parle de l'aspect tactique militaire, c'est-à-dire de combat, par rapport à la phase contre le M23, il y a une victoire militaire indéniable aussi bien de la coalition, la MONUSCO et le FARDC. Mais quand on analyse les choses sur le plan stratégique global, une victoire militaire ne signifie pas qu'on aboutit à des solutions politiques efficaces pour ramener la paix et la sécurité dans la région occupée. Certes, il faut reconnaître que les régions qui étaient occupées par le M23, Rutshuru, dans les Masisi, ou Nyiragongo, Bunagana, ou je peux dire Kibumba, l'autorité de l'État est en train de reprendre ses activités assez progressivement, et toutes les cicatrices que subissaient les populations à l'époque, notamment des travaux forcés ou des pillages et d'autres mesures assez contraignantes, n'existent plus. De ce fait, on peut quand même considérer que ces territoires connaissent une amélioration de l'intensité de la sécurité par rapport à la période sous occupation du M23. Mais cependant, comme beaucoup d'auditeurs l'ont mentionné, on assiste à un déplacement de la sécurité qui quitte la zone où le M23 sévissait vers une autre zone qui est à Beni, où actuellement, on peut le dire que personne n'est en mesure de dire exactement ce qui se passe à Beni. Parfois, on cite des adresses malou, sans donner des éléments probants, parce que quand on analyse, par exemple, les adresses malou, leur mode opératoire, on se rend compte que la manière dont certaines tueries sont menées à Beni ou aux alentours ne protège pas du mode opératoire des adresses malou. Donc, le M23, sur le plan militaire, était vaincu, mais d'un point de vue stratégique global, le M23 reste présent parce que ses troupes sont en Ouganda et certains même sont en Liberté. Donc, il reste encore certaines choses, des mesures à prendre, notamment par la bonne application de l'accord cadre que j'ai mentionné et la mise en œuvre aussi de l'engagement de Nairobi. Donc, voilà de la déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013, qui sont des instruments qui peuvent déjà permettre d'aller plus loin dans ces processus qui ne peuvent pas être gérés en one shot.
Oui, Jacques, il y a un auditeur tout à l'heure qui évoquait l'état d'urgence ou encore l'état de siège pour permettre assez qu'on puisse consolider la paix d'une manière durable dans cette partie du pays. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, je ne suis pas de cet avis. Je ne sais pas si l'auditeur comprend bien la notion d'état d'urgence et d'état de siège, parce qu'il a utilisé les deux mots. L'état de siège, c'est un régime particulier où l'armée prend le pouvoir, en quelque sorte, et assure l'ordre. Nous pensons que la solution dans ces zones n'est pas qu'une solution militaire, d'autant plus que parfois nos militaires sont aussi partie prenante dans les sécurités dans la zone. Donc je pense que ça ne soit pas la solution idéale, tout comme l'état d'urgence, et les gens aussi que ça c'est un état d'urgence, c'est qu'on restreint les libertés et le droit et les libertés fondamentaux des citoyens, c'est-à-dire que liberté des presse et tout, alors qu'on a besoin de ces libertés pour accompagner, pour mettre la pression sur les activités de l'autorité nationale. À mon avis, je pense que ce n'est pas une bonne mesure parce que ça, ce qu'il faut, c'est qu'il faut une prise de conscience, une bonne vision, une bonne volonté, une bonne politique de sécurité de la part des autorités internationales, provinciales, mais aussi des bonnes actions, des bonnes actions de planification plutôt, des autorités militaires coordonnées avec les services de police, les services de renseignement, les services douaniers. Tout cela va permettre une bonne prise en charge de la situation sécuritaire. Notamment, il y a des aspects diplomatiques aussi, parce que jusque-là, on ne voit pas l'accord cadre là. Il y a six engagements auxquels le Congo a souci, mais il y a aussi d'autres engagements qui interdisaient, par exemple, aux pays frontaliers de s'ingérer aux affaires intérieures ou de soutenir de l'extérieur des rébellions. Ça continue jusqu'à présent. Donc, c'est surtout ça qu'il faut essayer de réactiver, mais cela demande que l'action soit menée d'abord par les autorités compétentes congolaises.
Voilà, je crois que il y a un auditeur qui nous a fait derrière de il y a Maurice de Kinshasa, qui peut quand même nous rappeler au 081 890 6315, et nous rappelle également ces numéros pour tout le monde qui aimerait bien intervenir dans cette émission, 081 890 6315, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Avant de retrouver à nouveau le standard pour repasser en ligne donc nos auditeurs, on revient encore à vous, Jean-Jacques Wondo. C'est vrai, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de consolider la paix d'une manière durable dans la partie est de la RDC?
Tout est possible tant qu'il y a de la volonté, hein, vouloir c'est pouvoir. Moi je pense qu'il faut d'abord une bonne dose de volonté et de détermination politique pour pouvoir mettre fin à la situation qui prévaut à l'est du Congo ou à leur niveau depuis bientôt pratiquement 20 ans. Et moi je cela passe par plusieurs mesures qui faillent prendre, que ce soit des mesures d'ordre politique, diplomatique, militaire, et tout demande qu'il y ait une détermination, une vision claire et une volonté d'aller vers ça. Or, ici, on sent comme s'il y a une certaine tergiversation. Je donne un exemple. Après la traque du M23 et 47 militaires, il était question que les opérations soient menées contre les FDLR. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de la MONUSCO qui était là sur le terrain. Nos forces armées ont traîné le pas. Et quelques temps après, on apprendra que l'armée congolaise a préféré aller traquer les ADF-NALU plutôt que laisser les FDLR. Et de l'autre côté, si on quitte même la zone du Nord Kivu, on descend un peu plus bas dans le Katanga. Aujourd'hui, il y a le Katanga qui se promène pratiquement depuis 18 mois, sans que des mesures efficaces ne soient prises dans leur encontre. Et il y a une certaine lisibilité dans la détermination de la politique stratégique ou militaire des autorités congolaises, qui est aussi une certaine mollesse dans la manière de la MONUSCO de s'engager dans cette situation. Et récemment, ici en Belgique, par exemple, il y a M. Poblet qui était en conférence au Parlement européen, a reconnu que la MONUSCO n'était pas efficace pour venir à bout. On se pose des questions en tant qu'analyste. Si la MONUSCO avec 20 000 personnes est incapable, et avec 40 000 personnes est incapable, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura une solution dans l'immédiat? Est-ce que le problème, c'est le problème des troupes ou le problème des chefs? Parce que, voilà, on dit fais-moi une bonne politique et je te ferai une bonne armée.
Merci beaucoup Jean-Jacques. Restez encore en ligne avec nous. Nous allons prendre Dr Alain qui est à Kananga. Dr Alain, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis de la radio Focatique.
Voilà, parlez un peu fort, Dr Alain, parce que là, on a du mal à saisir vos propos. Un an après la victoire de FRDC sur la M23, quel bilan faire de la sécurité ou de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo?
Oui, mais nous allons beaucoup applaudir par rapport à la victoire qui nos FRDC ont fait là-bas à l'est, oui.
Mais le problème n'est pas là. Partant de leur histoire, j'allais un peu me demander, est-ce que toutes les frontières, ça se passe comme ça? Comment on doit seulement parler de l'Est de la RDC? Or, nous avons des frontières avec l'Angola, nous avons les frontières ici avec la Zambie, tout ça. Mais partout là, comment il n'y a pas de guerre seulement à l'Est? Bon, on trouve dans ces... Dans ces cas, on trouve qu'il y a une mollesse de la part des Congolais. Puisque si nous permettons que nos frontières soient permissibles, donc c'est pourquoi il y a tout ça. On parle toujours de l'ADR, comment une rébellion ougandaise peut venir semer la terreur en RDC tant que nous sommes des Congolais. Là, on laisse voir qu'il y a une complicité entre les dirigeants qui sont l'Est là et les rebelles. Donc, il y a une complicité. Tout ça, si on voit bien, au fond, c'est un enrichissement illicite. Puisque quand il y a un trouble comme ça, il y a des gens qui pillent, qui pillent, qui pillent, qui s'enrichissent au détriment de la population. Donc, tout ça, moi, je trouve que il faut que nous-mêmes, les Congolais, nous puissions prendre notre destin en main. Et si vous allez au Rwanda là-bas, ce n'est pas facile qu'un étranger puisse faire une chose en dehors de leur volonté. Mais ici, chez nous, ici, c'est le contraire. Si un étranger arrive au Rwanda, par exemple, il est bien surveillé par la police. Et la première police, c'est la population. Mais ici, chez nous, c'est vraiment une chose contraire. Donc nous octroyons l'hospitalité même à nos ennemis. Donc, c'est pour dire qu'en tout cas, il y a une mollesse, il y a une lâcheté. Moi, je trouve que les Congolais doivent prendre leur destin en main et puis trouver l'ennemi en dehors de nos frontières.
Oui, qu'est-ce que vous comprenez par
nous allons applaudir la victoire de nos FARDC. Oui, c'est bien, mais il y a toujours des résidus. Hier, nous étions avec les M23. Aujourd'hui, on parle des ADF. Donc, vous voyez que tout ça, c'est vraiment un sérieux problème.
Voilà, merci beaucoup, docteur Alain. On va prendre Maurice qui est à Kinshasa. Donc, Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Merci de m'avoir associé à ce débat.
Vous êtes dans une maison, on dirait. Là, vous chauffez vraiment comme si vous étiez dans une caisse.
Ah oui, en fait, je peux bouger un peu. Je suis dans...
Voilà.
J'étais à la douche. Alors là, je rentre un peu. Je suis rentré de la douche. Je ne sais pas comment.
Mais c'est plus ou moins. Vous pouvez aller maintenant.
Oui, je disais... avant même de parler du constat qui est fait juste après cette guerre, nous devons revenir un peu sur certaines zones d'ombre qui ont entouré cette factice de guerre. Parce que nous devons quand même, on qualifie souvent les Congolais d'un peuple et les courses de mémoire, parce que nous sommes un peu distraits. Hein. Nous n'aimons pas plus exploiter le sujet de manière vraiment très claire. Hein, on parcourt souvent l'actualité de manière elliptique. Or, c'est vraiment très, très mauvais pour un peuple que nous sommes. Je veux dire ceci. Lors de cette guerre, il y a eu d'abord un son d'alerte qui a été lancé par la MONUSCO. La MONUSCO, dans son rapport, il dirait qu'il y a présence de sujets rwandais suspects à la frontière. Et nous avions entendu l'autre son des cloches. Il faut prendre ces rapports avec beaucoup de réserves. Ça, c'est les Congos, c'est le gouvernement congolais qui a réservé. Quelques temps après, c'est la guerre de 1-23 qui se déclare à l'Est. Ces bandits, essentiellement constitués des Rwandais, déclarent que nous venons faire la guerre au régime. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas respecté les accords du 23 mars. C'est quand même la dénomination de 1-23. C'est-à-dire, il faisait référence aux accords signés le 23 mars 2009. Alors, ils ont estimé que ces accords n'ont pas été respectés et c'est ça qui a motivé leur aventure criminelle. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Tout au long de cette aventure, les villes tombaient comme des chenilles. Et à chaque fois qu'une ville tombait, le butin était vite exporté vers le Rwanda. Alors, ça c'était déjà des signaux forts pour faire comprendre aux Congolais que c'était vraiment une aventure, c'est vraiment de mauvais goût. Et qu'est-ce qu'on constatait encore? Il y avait des rappels du Tchatcha. Certains, à certains moments, la guerre vraiment faisait sa face, c'est plutôt la non-force d'armée, était vraiment déterminée à mettre fin à cette aventure, mais il y avait toujours des appels. On appelait, Kinshasa appelait, non, et se posait les armes reculées, et pour permettre qu'il y ait cette aventure de les mener du terrain.
Oui, Maurice, pour un peu éclairer la lanterne des uns et des autres, là vous faites allusion à quelques permutations qui sont intervenues au moment où les FARDC gagnaient 2 points par rapport à ces groupes armés actifs et qu'il y a certaines autorités militaires qui étaient rappelées ou étaient permutées à cette époque-là.
Tout à fait, je me parle de clair. Merci pour cette précision. Alors, je disais que il y a un rapport, des rapports crédibles, je crois que c'est par 3 fois, les rapports de panel là, du Conseil de sécurité. Dans leur publication, ils ont épinglé l'implication de certains hauts officiels militaires impliqués dans les trafics d'armes. C'est énormément.
Oui, ben, oui. Là, Maurice aurait même pour dire qu'il y a déjà des résultats des enquêtes. Il y a certains officiers qui ont été blanchis, donc on ne peut pas revenir sur ça. Parce qu'il y a un dossier déjà qui est clair et je crois que tout le monde a été fixé. Le gouvernement a fait même un point par rapport à ça.
Oui, je voudrais amener à comprendre, en fait, parce qu'à la fin, quand je vais citer, les gens...
Oui, il faut citer rapidement, parce qu'il ne faut pas trop prendre son temps, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Pour que les gens comprennent qu'il y a un autre aspect du fondement qui n'a pas encore été abordé depuis que je commence à suivre, M. le Député.
Oui, allez-y.
Cette ramification, cette complicité que nos collègues, les auditeurs ou les intervenants n'ont pas encore abordé.
Oui, allez-y, allez droit au but, allez. Allez
droit au but. Les gens ont été clés qui sont les noms. Certains ont été sanctionnés de manière administrative. Et quelques temps après, ils ont été blanchis et ils ont repris leurs fonctions. D'autres n'ont jamais été même inquiétés, malgré que les noms étaient cités. Voilà. Alors, je voudrais maintenant comprendre quoi. C'est que cette guerre-là, si vous voyez la manière dont il a commencé, les temps qu'il a fait pris, et la manière dont il a terminé, vous allez comprendre que vraiment il y a un flou. Il y a un flou dans cette histoire-là. Il y a pris au moins 2 ans. Qui doit se terminer en moins de 2 semaines. Vous avez vu comment ça s'est terminé. C'est là où on a compris que non, c'était une histoire téléguidée, télécommandée par des gens.
Voilà, Maurice, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce qu'il y a Roger qui attend aussi pour intervenir.
Je vous ai dit, c'est ici que nous savons qu'il y a eu un accord au cas de Addis Abeba qui a été signé. Il y a eu des accords qui ont été signés avec les R23 en Nairobi. Aujourd'hui, les M23 invités à la table d'évaluation de ces rapports, les M23, par 3 fois, n'ont pas répondu présent. Alors, les M23, vous savez que cela se passe en Ouganda ou en Angola. Alors, ça, c'est déjà un point déjà sur lequel on doit beaucoup discuter. Il y a un deuxième point, c'est le non-respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comment RDC a signé à fond et du forme cet accord cadre d'Addis Abeba. Alors aujourd'hui, il se pose un problème. Cet accord cadre a prévu un dialogue inclusif. Pourquoi il a prévu un dialogue inclusif? Parce que ces gens-là qui ont tenu les armes sur le plan politique.
Voilà. Alors, je comprends bien. Je comprends bien, Maurice. Vous voulez la solution pour vous. Il faut qu'on aille encore au dialogue, c'est ça.
Voilà.
Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Roger qui est à Kisangani. Bonjour Roger.
Bonjour.
Vous avez la parole Roger.
Oui. Oui, pour ma part, je pense que par rapport à ces accords et les bilans, tout cela, c'est nous qui sommes perdants, nous, la RDC. Nous sommes perdants, totalement. Pourquoi? Parce que, par rapport à tout cela, nous avons perdu des officiers, pas de moins. Pas de moins de
l'ingénieur. Vous voulez parler de Mamadou Dala?
Je parle ici de Mamadou et du général Bahouma. Voilà les gens qui nous ont perdu par rapport à cette guerre. Et le gouvernement, si seulement le gouvernement était responsable, on aurait dû voir le ministre de la Défense et de l'Intérieur démissionner. Si c'était intellectuel. Malheureusement, donc il faut semblant de nous tromper avec une promesse de promesse. C'est une personne qui est perdue. Donc le peuple doit ouvrir l'œil et comprendre que nous sommes abandonnés. Donc ce qui nous dirige, nous sommes pour la paix.
Mais Roger, vous n'aviez pas ce même langage quand on a parlé des victoires des FARDC sur les M23. Nous avons tous salué. Pourquoi aujourd'hui on doit revenir sur.
C'était une question politique de l'AGR. Donc, on a semblé demander aux intervenants de
revenir. Là, finalement, on ne comprend plus. On
a avancé, on a applaudi et tout ça.
On a tout applaudi. Mais pourquoi ne pas encourager aujourd'hui les FARDC? Pourquoi ne pas aujourd'hui encourager les FARDC à aller encore de l'avant et pour bouter hors d'état de nuire et d'autres groupes d'armées qui sont encore opérationnels dans la partie est de la République démocratique?
Bien, nous avons une armée combattante. Nous avons une armée combattante qui est démotivée par les dirigeants, par les autorités. Donc nous avons une armée qui sait bien combattre, qui connaît bien le pays. Mais cette armée-là est démotivée par ceux qui nous dirigent, les ministres, même les députés. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à tout cela? Ils ne font rien. Et si les députés sont déjà à nous aller chercher à comprendre comment ils sont militaires, comment ils sont au front. Rien du tout. Mais s'il faut chercher à faire venir un ministre au Parlement pour demander un peu le bilan, non, il y a d'autres partis qui s'interposent. Donc, le point est vrai. Ceux qui nous dirigent ne sont pas pour la paix. Ce sont ceux qui sont dividendes. Ils sont bénéficiés de tout cela. Et c'est le peuple qui en pâtit.
Merci voilà. Beaucoup. Merci
donc,
beaucoup.
Donc, le souhait ici,
oui, pour
c'est la paix du régime, la paix toute sa bande.
Merci beaucoup Roger d'avoir appelé de Kisangani. On va revenir à vous, Jean-Jacques Wondo, analyste politique et l'invité du jour. Nous rappelons à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, en tout cas si vous êtes arrivés sur les ondes de Radio Capi, merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Composez le 081-890-6315 pour nous rejoindre et intervenir en direct.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Voilà, nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission avec vous, Jean-Jacques Wondo. Vous êtes avec nous, analyste politique et notre invité. Vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Oui, on constate une certaine frustration de la part des auditeurs qui laissent transparaître un goût inachevé dans les actions menées par le 1-23. Ce qu'on peut comprendre, parce que quand on voit qu'on a éradiqué le 1-23 et puis par après tout s'écroule et que à Béni, les choses recommencent comme si auparavant il n'y avait pas cette armée. Oui, on peut comprendre leur indignation, on peut comprendre ces attitudes, et ils ont touché un peu à tout. Moi, j'aimerais peut-être revenir sur le fil de la manière dont les opérations ont été menées contre le 1-23, parce qu'il y a deux séquences. On ne doit pas seulement se focaliser sur la victoire définitive militaire finale, mais il y a même trois séquences. Il y a la séquence avant la chute de Goma, la séquence après la chute de Goma, et la séquence qui a suivi la défaite du 1-23 avec la signature de la déclaration de Nairobi. Avant la chute de Goma, tout le monde n'a pas compris la manière dont Goma qui était une sorte de force terrestre, tant sur le plan national que international, puisse tomber. La chute de Goma signifie aussi la mise en évidence de l'échec de la mission de la MONUSCO au Congo. Et dès cet instant, Goma qui tombe en novembre 2012, pratiquement une année après les élections qui sont déroulées dans des conditions où on connaît notamment avec le problème d'accès de légitimité et consorts, à ce moment, il y a une frustration qui a exaspéré les populations locales qui sont unies à se prendre en charge. Donc, dès la chute de Goma, la population a commencé à se prendre en charge en mettant la pression, pas seulement sur le gouvernement congolais, mais aussi auprès de la MONUSCO. Et avant la chute de Goma, on a eu des scènes où des officiers qui étaient braves ont été rappelés, des officiers qui étaient butés, même au dernier jour de la chute de Goma, Bauma, qui était commandant des opérations, a été on lui a demandé de quitter le commandement pour le laisser au général Anissi, qui a ordonné aux troupes de ne pas se battre, de laisser aux troupes de battre à Goma. Mais bon, vous avez évoqué les enquêtes qui ont eu lieu, mais ce sont des enquêtes internes à l'armée, mais il n'y a pas eu d'action judiciaire essayer d'éclairer sur ces aspects, alors que les auditeurs ont fait mention effectivement de plusieurs rapports des Nations Unies qui ont détaillé les manières dont certaines choses se sont déroulées. Et je recommande aux auditeurs d'aller lire ces rapports. Ils peuvent être édifiés sur la manière dont les FARDC sont engagés. Deux jours avant la chute de Goma, par exemple, les FARDC ont occasionné des morts et des pertes terribles au M23. Et on ne comprend pas brusquement un remplacement de cette situation, et les rapports le disent, pour des raisons inconnues, les gens ne voulaient plus se battre, se sont répliés, il y a l'échec de Goma, et la pression qui a été mise par la suite, c'est le cas aussi de saluer la prise en charge, l'implication de la population, parce qu'on ne gagne pas une guerre si la population n'en
comprend pas.
Vous pouvez faire l'analyse de toutes les guerres mondiales. On voit que quand la population en comprend ses troupes, c'est là de façon par une victoire. Accompagner ces troupes, mettre la pression sur les autorités congolaises, sur la MONUSCO, et sur ce qui est en train de se mettre en place aussi actuellement par rapport à la situation des Béni, où une certaine exaspération fait que les autorités à ce moment vont, qu'il y veuille ou pas, permettre ce qu'on appelle la volonté politique de mener cette guerre. Donc ça, c'est pour se construire un peu ce qu'il a été dit tout à l'heure. Mais il y a un aspect aussi quand le M23 a été vaincu. Généralement, quand un groupe est défait militairement, c'est un acte de reddition.
Oui, Jean-Jacques, là où peut-être ça complique un peu la population, pourquoi demander à la MONUSCO de réagir plus que la résolution 2098, parce que cette édition ne vient qu'un appui au gouvernement congolais. D'abord, c'est un effort qui doit être mené, tel que défini par la Corcade ou la Addis Abeba, par les FARDC.
Ben, ça, je le dis toujours, je ne dis pas que je demande à la MONUSCO, mais la MONUSCO est là parce qu'elle a aussi un mandat qui lui a été donné par la communauté internationale du fait de la faiblesse de l'armée. Et la résolution 2098 le dit d'ailleurs, et ça je voulais le préciser pour être d'accord avec vous, le gouvernement congolais est le premier responsable
de la protection des civils et des populations.
Donc, cette mission incombe en premier lieu au FARDC qui aujourd'hui, à l'île, 140 000 personnes. Quand on voit 140 000 personnes, vous avez vu tous avec moi le défilé qui s'est déroulé le 30 juin, on peut se poser la question, pourquoi cette léthargie quand il faille maintenant aller mener des opérations militaires contre des groupes, je peux vous dire que si Zadesna sont vraiment existent comme on peut le croire, ils ne dépassent pas 1500 personnes. Bien que deux bataillons d'unités commando formés par exemple par la Belgique, pour faire un pays, pour faire un deuxième, peuvent arriver au bout de ces rebelles. Et parfois, je comprends, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, pourquoi c'est détaché, pourquoi on n'a pas les moyens, la force, la pression, là où il faut pour pouvoir éradiquer tout ça. C'est comme si, moi je dirais pas la complicité parce que je n'ai pas de preuves, mais une certaine sorte de connivence ou de laisser aller, comme si derrière tout ça, il y a aussi d'autres d'aspects politiques qui sont derrière ça, qu'il faut essayer de d'éclairer, mais aussi des aspects diplomatiques.
Voilà. Jean-Jacques, vous êtes encore avec nous en ligne. Enfin, désolé, alors, on va prendre d'abord Massoudi, le temps que la réalisation nous aide à récupérer Jean-Jacques Rondeau depuis la Belgique. On va prendre Massoudi qui est à Colésy. Bonjour Massoudi. Voilà, docteur Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec nos lignes téléphoniques. Docteur Richard, vous êtes avec nous? Voilà, on doit rappeler à tous nos auditeurs, on dirait qu'on a des petits soucis de ligne téléphonique. On va revenir encore au standard d'un moment à l'autre. Le temps de rappeler à tous ceux-là qui viennent à peine de nous rejoindre que mardi 5 novembre 2013, les forces armées de la RDC, appuyées par les casques bleus de la brigade d'intervention de la MONUSCO, ont obtenu une victoire totale sur le M23 avec la prise de leur dernier bastion, les collines de Tchanzou et Rouen. Et dans la foulée, le mouvement annonçait officiellement la fin de sa rébellion. Un an après cette victoire sur le M23, quel bilan faire de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et que faire pour consolider la paix d'une manière durable dans cette partie du pays toujours en proie à l'insécurité?
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous avons suivi les deux premières séries des auditeurs. On va d'un moment à l'autre repasser de l'autre côté du standard pour retrouver d'autres auditeurs qui ont souhaité intervenir dans cette émission, mais tout en vous rappelant que, en fait, par rapport à l'intervention de notre invité tout à l'heure, il a évoqué l'aspect signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi que le vote qui a eu lieu au Conseil de sécurité le 28 mars, qui a en fait, abouti à la résolution 2098, créant ainsi donc la brigade d'intervention spéciale de la MONUSCO. Et à partir de cette brigade qui est venue en appui donc aux forces armées de la RDC, qu'on a obtenu une victoire totale sur le M23 avec la prise de leur dernier bastion, les collines, j'ai cité donc les collines de Tchanzou et Rouyoni. Et dans la foulée donc, à cette période, à cette époque, le mouvement annoncé officiellement la fin de la rébellion. Alors, un an après cette victoire sur la M23, quel bilan faire de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo? On retrouve à nouveau notre invité Jean-Jacques Rondeau depuis Belgique. Jean-Jacques, vous êtes avec nous?
Oui, je vous suis.
Voilà, vous parlez tantôt de l'appui de la MONUSCO au FRDC, vous évoquez quelques dispositions de l'accord cadre d'Addis Abeba qui en fait donner la prérogative de lutter contre les groupes armés actifs de l'est de la République démocratique du Congo au FRDC ou encore au gouvernement congolais.
Oui, je dirais que là, c'était pour aller aborder dans votre sens que dans mon intervention, il n'était pas nullement question de dire que la MONUSCO devait prendre la place des FRDC, parce que la résolution 1598 sur le titre est que les FRDC, c'est-à-dire le gouvernement congolais, est le premier responsable de la protection de la sécurité de ses habitants, donc de ses populations. Donc cette mission incombe d'abord en premier lieu, et d'abord quand on parle d'un État, la facilité de l'État, c'est de pouvoir garantir la sécurité, la souveraineté territoriale de tout son pays. Et il revient d'abord, en tout premier lieu, au gouvernement congolais d'assurer la sécurité à l'Est. Et étant donné qu'on a constaté une certaine léthargie, une certaine absence de cette autorité de l'État, c'est pour cela que la mission de l'ONU est venue se greffer, mais de manière subsidiaire, au gouvernement du Congolais pour pouvoir poursuivre cette action. Mais aujourd'hui, aussi bien du côté congolais que de la MONUSCO, on voit qu'il y a une certaine mollesse et que c'est comme si il faut chaque fois qu'il y ait des tueries, qu'il y ait quelque chose qui émeuve les populations pour que on décide comme aujourd'hui. On peut lire Monsieur Claude Kobler qui était à l'Est, qui a déclaré que les adeptes Malou détiennent la priorité. Mais c'est comme si on redécouvre ça aujourd'hui, alors que cette priorité était là bien avant
même les MP3.
La mise en place de la brigade internationale. Donc il s'agit d'une responsabilité d'abord congolaise et puis subsidiairement de la communauté internationale. Mais si je voulais revenir sur l'acte de la déclaration de Nairobi, où il y a eu 2-3 documents distincts. Or, d'habitude, quand un groupe est défait militairement, c'est un acte de reddition, c'est-à-dire que le groupe qui a été vaincu accepte toutes les conditions qui lui sont imposées par le vainqueur. Or, comme cela s'est passé au côté de Versailles, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 14-18, dont nous faisons le centenaire actuellement, ou après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, on a eu droit à des documents assez flous, où au lieu que un vainqueur reconnaît sa défaite et soit éradiqué sur tout le plan, on s'assemble un 23 à un groupe politique, et souvent les gens oublient que la guerre ce n'est pas une fin en soi. Et un grand stratégiste militaire dit la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que la guerre c'est un moyen de faire la politique. Et j'ai eu à l'expliquer par le passé, vous verrez que quand vous analysez le mode opératoire du M23, il utilise une rhétorique bipolaire qu'on appelle talking and fighting, dialoguer et se battre. C'est-à-dire que quand ils sont en faiblesse sur le plan militaire,
ils demandent le dialogue.
Les instruments de dialogue pour pouvoir exister. Or, tout cela doit être compris dans la guerre ou dans la manière de mener la guerre contre tous ces mouvements.
Voilà.
On ne se réfère que, on se concentre que sur l'aspect militaire. On risque de passer à côté.
À côté de
moi, je pense que ce qui se passe même à l'Est en Ouganda, c'est plutôt à Béni, qu'il n'est pas exclu que ce soit un déplacement de ce mouvement qui puisse faire des instructions de ce côté-là.
Voilà, merci beaucoup Jean-Jacques Wondo. Nous rappelons que vous êtes analyste politique et vous intervenez dans Parole aux auditeurs depuis la Belgique. Merci et à nous revoir très prochainement.
Merci à vous.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce programme réalisé par Julie Feza Bongonda, mise en onde par Paul Badianyama, coordonné et présenté par J.R. Nungembo sous la supervision de Léonard Kabamba. On se retrouve demain dans un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.